Il s'arrêta de nouveau, mais cette fois non pour reprendre haleine. L'homme sans famille, sans amis, sans fortune, qu'est-il donc sur cette terre, pensa-t-il. Quel être prendra sur lui de le défendre? Oui, j'ai tué un pauvre fonctionnaire parce que sa femme ne voulait plus me donner d'argent. Je l'ai tué parce qu'il était honnête, bon, indulgent. Sa femme et moi, nous le trompions. Il a quand même pris sa défense et il en est mort. Voilà l'homme que je suis. Je fais chanter une femme. Le mari prend sa défense. Qu'à cela ne tienne, je le tue. Je voulais être un sage et je ne rêvais que luxe et richesse. Qu'est-ce que je mérite? Un châtiment, de la pitié ou de l'amour? Que suis-je sur cette terre? Oh, Jacqueline, pourquoi m'as-tu abandonnée? Pourquoi n'as-tu pas deviné ce qu'il y avait de pur dans le fond de mon cœur? Personne au monde ne t'aimera comme moi. Et tu as peur et tu t'es détournée de moi comme d'un pestiféré. Si encore tu m'avais dit ce que je devais faire pour me racheter à tes yeux. Mais rien, je n'existe plus pour toi. Tout est irréductiblement fini. La plus grande sincérité, le plus profond amour ne te convaincront plus. Il ne me reste qu'à répéter ces mots, les plus imbéciles qui soient. Si j'avais su. Oui, si j'avais su. Mais à quoi cela sert-il de revenir en arrière? Je ne savais pas. Voilà mon malheur, voilà la vérité. Je croyais que j'étais un être exceptionnel. Dans le silence de ma chambre, je croyais que Dieu avait pour moi une affection particulière, qu'il attendait de moi de grandes choses dans l'intérêt du monde. Je croyais que ma genèse était la seule raison de mon impuissance. J'attendais qu'une certaine heure sonnât. Maintenant, tout est fini. J'ai tué un homme sans défense, et si mes frères me jugeaient aujourd'hui, ils seraient sans pitié. Ils auraient beau jeu, car il n'y a rien dans ma vie qui puisse attirer sur moi quelque commisération. Tout ce qui est digne d'être aimé, admiré en moi, tout cela n'a pas encore eu le temps d'éclore. Qui croit aux vertus cachées lorsqu'aucun geste, aucune parole n'en a jamais dévoilé une seule? Je voulais mourir, mais je ne suis pas mort. Comment pourrais-je me prévaloir de cette volonté? On ne me croira pas. On m'accusera d'être un simulateur. Pourtant, si je me trouve à cette minute dans cette rue, c'est bien malgré moi, c'est bien à cause de toi, Jacqueline. Tu as attendu pour venir à moi le seul moment où je n'étais pas prêt à le recevoir. Qu'est-ce que cela signifie? Arnold se remit en marche. Il éprouvait le besoin de se confesser. Il souffrait d'être seul. Il souffrait d'être un assassin. Dans cette ville, au milieu de laquelle il se trouvait, et dont pourtant il ne faisait plus partie, il était un endroit où on l'eût accueilli avec joie. Bientôt, il atteignit un quartier pauvre. Après avoir erré dans un nombre incalculable de ruelles sordides, il s'arrêta devant un immeuble d'apparence modeste. Quelques secondes durant, il parut hésiter. À la fin, il se décida à sonner. En passant devant la loge de la concierge, il murmura un vague nom. Il traversa ensuite une cour, gravit un escalier obscur et étroit, s'immobilisa enfin au quatrième étage. Depuis 3 ans, à la suite d'une querelle d'intérêts, il n'avait pas revu sa mère. C'était une pauvre femme malade qui vivait des seules rentes que lui versait le ministère des pensions, son mari ayant été tué à la guerre, ainsi que des gains infimes qu'elle tirait de petits travaux de couture. Souvent, elle songeait à son fils. Il avait beau avoir mal agi, elle ne lui en gardait pas rancune. Il était à ses yeux victime de mauvaises fréquentations, mais le fond de sa nature était bon. Elle ne lui en voulait aucunement de l'avoir abandonné, de n'avoir rien fait pour elle, vieille et malade, lui qui était jeune et bien portant. Avec le temps, elle avait oublié qu'il s'était fâché lorsqu'elle lui avait refusé de l'argent, qu'il lui avait reproché son égoïsme, qu'il lui avait crié durement qu'elle n'avait besoin de rien parce qu'elle était vieille. Arnold trouva sa mère en train de coudre. À sa vue, elle poussa un léger cri, ôta ses lunettes et, en s'appuyant au meuble, avança à petits pas tremblants à sa rencontre. Son visage ridé était illuminé. Toute sa personne disait la joie immense qu'elle avait de revoir son enfant. Il en fut si ému qu'il s'arrêta, qu'il ne trouva aucun mot à dire. Il n'est sans doute pas d'instant plus pathétique pour un coupable que celui où il retrouve un parent, un ami, une femme qui ne croira jamais à sa faute. Cette vieille mère, à laquelle il n'avait plus songé depuis des années, qui n'était plus pour lui qu'une étrangère, de qui il avait honte au point d'avoir répété partout qu'il était orphelin, par le jeu des événements, redevenait celle qu'il avait élevée et protégée. Il la retrouvait telle qu'il l'avait laissée. « Si je ne m'occupe plus de toi, semblait-elle dire, c'est parce que tu es devenu trop grand. » Elle le regardait avec une admiration mêlée de respect, de ce respect qu'ont les mères pour les enfants dont le père a prétendu toute sa vie qu'il en ferait des êtres exceptionnels. Elle cherchait à découvrir cette supériorité promise, et bien qu'elle ne la trouvât pas, elle songeait que celle-ci devait exister et que, cachée sous de la modestie, elle n'en était que plus grande. Cet homme devant elle, c'était donc son fils, c'était donc le petit garçon qu'elle avait bercé dans ses bras, le petit garçon à qui, jadis, elle faisait des remontrances et des compliments. Aujourd'hui, il avait fait son chemin, il était mêlé à la vie, et elle ne pouvait même plus lui avouer son émotion. Cet être qui était un peu elle-même, au point qu'elle l'avait vêtu, nourri, baigné, lui apparaissait lointain, mystérieux, inconnu. Elle s'arrêta à un pas de lui, elle lui dit, tout émue de s'entendre le tutoyer, « Mais entre donc, assieds-toi !» Arnold s'avança. En cette nuit de peur, de découragement, de remords, il lui était doux de revoir sa mère, de parler à une femme de qui, quoi qu'il puisse faire, il demeurait toujours le fils. L'impossibilité qu'il en fût autrement le réconfortait. Elle était sa mère, il était son fils. Il est des instants, malgré tout, où la vertu est un sujet de fierté. Les dévoyés, les pires bandits, ne font pas exception à cette règle. Comme aux honnêtes gens, il leur arrive de s'étendre sur leur générosité, leur courage. Devant sa mère, Arnold aurait voulu qu'une existence sans tache lui permît de s'enorgueillir de lui-même. Mais il n'était qu'un criminel, traqué par la police, indigne d'inspirer un sentiment quelconque. « Comme tu as l'air fatigué, Arnold ! A-t-on idée aussi de sortir par un temps pareil ?» Comme la vie de sa mère, cette vie dont il s'était moqué, qu'il avait méprisée, lui parut douce. Il faisait chaud chez elle. Elle n'avait pas besoin de sortir la nuit dans la pluie et le vent. Elle travaillait à la lumière d'une lampe, cependant que lui, en lutte avec les hommes, s'était perdu à jamais. « Assieds-toi donc, Arnold, je vais te faire du café, si tu veux, à moins que tu ne préfères le thé. » Notre héros eut un geste de refus. Cette offre l'avait touché, mais il ne voulait rien de ce qu'on lui proposait, tellement était grand le dégoût qu'il avait de lui-même. « Écoute-moi, maman, il faut que je te parle. » Elle s'immobilisa, regarda son fils avec étonnement. « Tu as à me parler, à moi, ta vieille mère ?»«
Oui, maman. »«
Mais parle, mon enfant, dis-moi ce que tu as à me dire. » Arnold hésita un instant. Qu'allait-il arriver lorsqu'il avouerait la vérité ?«
Maman, balbutia-t-il, j'ai peur que tu ne te détournes de moi lorsque tu sauras ce que j'ai fait. »
Elle eut un sursaut. Elle soupçonnait mille choses, mais elle eût été incapable d'en définir une seule. Que ce fût sa chair à elle, qui baigna ainsi dans l'inconnu, fit qu'elle eut, en écoutant son fils, le même mouvement de défense que pour une maladie.
« Je ne veux rien entendre, Arnold. Je ne veux rien savoir. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Laisse-moi dans mon coin, comme tu l'as toujours fait. Je suis déjà assez malheureuse comme cela. »
En prononçant ces paroles, elle s'était approchée de la porte et l'avait ouverte.
« Je suis ton fils, » répondit Arnold. « Je ne veux pas t'écouter, je te le répète. Laisse-moi, retourne chez tes amis. Je ne peux rien pour toi, tu le sais bien. Pourquoi viens-tu me trouver ?»
Les signes du plus grand affolement étaient visibles sur son visage. On eût dit qu'ayant subitement deviné que son enfant était un criminel, elle tremblait d'être mêlée à quelque affaire louche. Ce n'était pourtant pas par sécheresse de cœur qu'elle redoutait ainsi une accusation de complicité. Petite chose qu'elle était, elle n'eût su comment se défendre.
Le concierge de sa maison était déjà, à ses yeux, un homme redoutable. Si des policiers étaient venus enquêter à son domicile, l'interroger, elle serait morte de frayeur. « N'es-tu pas ma mère ?»«
Je t'en prie, laisse-moi, pars, ne reviens plus !»
Soudain, Arnold leva la tête. Il venait d'entendre marcher dans la pièce voisine. La respiration coupée, il écouta. Était-il tombé dans un piège ? Sa mère, en lui enjoignant de la quitter, voulait-elle le sauver ? Mais tout redevint silencieux.
« Qui est-ce ? » demanda Arnold.
« Personne !» répondit-elle au moment même où les bruits de pas reprenaient.
« Comment personne ? » ?»«
Non, non, je t'assure qu'il n'y a personne !» La singularité de cette réponse, au lieu de mettre Arnold en colère, l'emplit de tristesse. Tout le monde, jusqu'à sa propre mère, était donc ligué contre lui et désirait sa perte. Méritait-il vraiment un tel sort ? Un sourire imprévu éclaira alors ses traits. Ne serait-ce pas réconfortant d'être livré à la police par la seule personne au monde qui eût dû le défendre ? Il cherchait une raison de souffrir, une raison avouable. Ne l'avait-il pas trouvée ? Du plus abject des criminels, il allait devenir la victime d'une mère dénaturée. Pour la première fois, depuis qu'il avait tenté de se donner la mort, il pouvait se réjouir.
« Dis-moi la vérité, maman, il y a quelqu'un ici, quelqu'un qui attend que je fasse un geste pour se démasquer. Mais cela m'est égal. Au contraire, si tu savais le bien que tu me fais... »«
Non, il n'y a personne, je te le jure !» Au même moment, une porte s'ouvrit et un étrange petit homme parut. Il était vêtu d'une robe de chambre au bas de laquelle on apercevait ses jambes maigres et nues. Il se tenait courbé comme un vieillard. Son crâne chauve avait une teinte jaunâtre de vieil ivoire. Une écharpe entourait son cou. Il entr'ouvrit la bouche pour parler. Dedans, longues comme des crocs, jaunâtres également, apparurent. À la vue du jeune homme, il s'arrêta comme pétrifié. Puis il balbutia quelques paroles dont le sens était inintelligible.
« C'est mon fils !» lui dit la pauvre femme.
Le petit homme, aussitôt, sembla se remettre de sa frayeur.
« Ah ah ! » marmonna-t-il en se tournant vers Arnold. « Je suis heureux, très heureux de faire votre connaissance. Il y a si longtemps que votre mère m'annonçait votre visite que... les mots me manquent, excusez-moi. Je suis un drôle de personnage. Vous l'ignorez, je le sais, mais je me permets de vous le faire remarquer. Vous êtes donc son fils ? Comme c'est curieux, ou plutôt, comme je comprends la fierté de votre mère.
« Mais qui êtes-vous ? » demanda Arnold, que la faiblesse physique de son interlocuteur avait rassuré.
« Votre beau-père. »
Au même moment, la pauvre vieille se tourna vers son fils.
J'aurais voulu tout te dire moi-même, mais je ne savais pas ton adresse. Je l'ai demandé partout, à ton oncle Gustave, à la fabrique où tu as travaillé il y a 3 ans, mais personne ne la connaissait. »
En même temps qu'elle appréhendait qu'Arnold profita de cette circonstance pour lui faire des révélations sur sa vie, elle tremblait qu'il ne se fâchât. N'avait-il pas toujours parlé avec le plus grand amour et la plus grande admiration de son père ? N'avait-il pas justement quitté le domicile de ses parents parce qu'à la mort de ce dernier, sa mère avait renoué avec cette famille que son mari avait détestée ?
« Tu me pardonnes, n'est-ce pas, Arnold ?»
Il était pénible de voir cette vieille femme qui, on le devinait, avait été méprisée par son mari, par son fils ensuite, essayer de se justifier auprès d'un enfant qui, sans le moindre remords, l'avait abandonnée à elle-même.
« Tu ne m'en veux pas ? » demanda-t-elle encore.
Arnold ne lui en voulait pas. L'abîme au fond duquel il se débattait était bien trop profond pour qu'il songeât à s'inquiéter d'un événement aussi minime. Il ne regrettait même pas le beau rôle que lui eût donné sa mère, si, comme il avait d'abord cru, elle s'était faite la pourvoyeuse de la police. Pourtant, il ne put se défendre du désir de montrer un mécontentement qu'il n'avait pas, mais que sa mère lui reconnaissait le droit d'avoir. Ne l'avait-elle pas accueilli avec froideur ? Ne s'était-elle pas désintéressée de sa souffrance ? Il chercha un mot qui le vengea. À ce moment, ses yeux rencontrèrent ceux du petit homme. Ils étaient si doux, si résignés, si pleins de respect pour sa personne, qu'il en oublia son désir. « J'ai été victime, » commença le petit homme, qui croyait que le silence d'Arnold était causé par l'intérêt qu'il suscitait, « d'une injustice qui a brisé ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire ?»«
Oui. »
« Je tiens à vous répéter quand même que j'ai été victime d'une injustice qui a brisé ma vie. Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui ne soit plus utile à un jeune homme que l'expérience d'un aîné. » « Mais où est maman ?» demanda Arnold en s'apercevant que sa mère avait disparu. « Je sais tout, » fit avec calme son interlocuteur. « Comment, vous savez tout ?» Ne vous croyez pas obligé, devant moi, à faire étalage de vos sentiments filiaux. J'ai roulé ma bosse, j'ai observé. Vous et votre mère, vous n'êtes pas du même monde. » Ces paroles, dites sur un ton de confidence complice, déplurent à Arnold. « Que voulez-vous insinuer ? » ?»« Je vous en prie, ne parlez pas si fort, elle pourrait vous entendre. » Une seconde, Arnold pensa reprocher à cet homme son langage, mais le souvenir de son crime l'en dissuada bientôt. « À quoi bon, songea-t-il, puisque je suis perdu ?»« Je vais tout vous raconter, » continua le petit homme. « Pourquoi ?» interrogea Arnold, que cette insistance commençait à inquiéter. « Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi ? Mais parce que vous êtes dans la vie ?» parce que vous voyez les puissants de ce monde. Oh, je sais tout. Votre mère m'a raconté votre vie. Vous avez des amis haut placés. Un seul mot de vous, un seul petit mot, suffira à me faire obtenir réparation. Écoutez-moi bien. Avant d'entreprendre le récit d'un événement capital, il ne faut pas qu'une fausse pudeur retienne le narrateur de parler un peu de soi, ne serait-ce que pour se rendre sympathique à son auditeur. « Avant tout, laissez-moi cependant vous dire que je me réjouis beaucoup de votre visite. Aussi me suis-je bien gardé de dormir, et tout à l'heure, lorsque j'ai entendu une voix d'homme à travers cette porte, je n'ai pas douté que ce fût vous. » « Mais quel est cet événement singulier ?» demanda Arnold, pour qui tout ce qui manquait de clarté cachait un piège. « C'est un grand plaisir pour moi que vous teniez à le savoir. Puisque vous m'encouragez, je vais vous le raconter. » Ce soir, comme tous les soirs, je suis sorti vers 6 heures pour chercher mon lait. En revenant, comme je traversais une petite rue populeuse, une de ces rues où certainement un jeune homme comme vous n'a pas l'occasion d'aller souvent, j'ai été bousculé avec une telle violence que mon lait s'est renversé et que j'ai failli tomber. En trébuchant, je me suis agrippé à une jeune fille. Mais, au lieu de soutenir le vieil homme que je suis, elle se mit à m'injurier. À quelques pas, 2 jeunes gens riaient et se moquaient de moi. C'étaient eux qui m'avaient si brutalement rudoyé. Blême de colère et conscient de ma faiblesse, je m'approchai d'eux. Ils me narguèrent. « Vous n'avez pas honte, leur dis-je, de vous acharner ainsi sur un pauvre vieillard ?» Avec un sérieux subit, ils se regardèrent en simulant l'étonnement. « Nous ? Oui, vous ! » J'étais hors de moi, d'autant plus que je les reconnaissais très bien. L'un d'eux continua avec insolence. « Je ne vois pas pourquoi vous vous adressez à nous. Nous ne sommes pas les seuls dans la rue. C'est vous qui m'avez bousculé et qui m'avez fait perdre mon lait. » Ils éclatèrent de rire. Cette scène ne tarda pas à provoquer un attroupement. Je pris alors à témoin les badauds qui nous entouraient. Mais il doit y avoir dans mon extérieur quelque chose de bizarre, d'antipathique, qui empêche les mieux intentionnés de se ranger de mon côté. Pourtant, tous ces braves gens, du peuple évidemment, ont un sens assez développé de la justice. Ils sont toujours les premiers à s'élever contre un abus. Ils ne manquent jamais de prendre parti pour le faible contre le fort. En conséquence, ils eussent dû normalement défendre le malheureux vieillard que je suis, dont la seule nourriture venait d'être répandue à terre, contre ces malandrins qui me parlaient la cigarette à la bouche et les mains dans les poches. Ce fut le contraire qui se produisit. Une honnête femme, au visage respirant la franchise, qui tenait par la main un enfant propre, intelligent, vêtu avec soin, se tourna vers les voyous et, en ricanant, fit à peu près cette remarque. De quoi se plaint-il, ce vieux Grigou ?
Un ouvrier qui assistait également à la scène, un de ces ouvriers sobres, habiles de leurs doigts, qui, leur travail terminé, se change puis se délasse dans l'étude, ajouta « Cela lui fera les pieds !» Quelle expression, n'est-ce pas ? Ce que ces gens peuvent être vulgaires à certains moments, ne trouvez-vous pas ? Vous m'avouerez que c'est extraordinaire et qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fâcheux dans ma tournure pour que, à ce point dans mon droit, il ne se soit trouvé personne pour rendre justice à l'homme effacé, pauvre, modeste que je suis. Ne vous étonnez surtout pas de la profusion de détails que je vous donne. Si j'insiste aussi longuement sur ce petit incident, c'est qu'il est, toute proportion gardée, semblable à celui qui brisa ma vie. Mais revenons à mon histoire, car c'est elle, comme vous allez le voir, qui m'a fait pressentir votre visite. J'étais donc hors de moi. D'avoir été maltraité méchamment, d'avoir perdu mon seul aliment du soir, de constater que mes plaintes légitimes excitaient les spectateurs contre moi, tout cela m'avait en quelque sorte rendu à demi furieux. Faisant face, non seulement à mes agresseurs, mais à tous ces braves gens qui le soutenaient, je m'abandonnais à mon amertume. « Vous ne rougissez pas, dis-je à tout ce monde, d'accabler ainsi un pauvre homme trop vieux pour se défendre. À votre place, je mourrai de honte. Oh, croyez-moi, cela ne vous portera pas bonheur. Et si, aujourd'hui, vous ne craignez rien, un jour viendra où vous regretterez ce que vous venez de faire. » Évidemment, ce n'était que des paroles. Mais qu'avais-je d'autre à ma disposition ? Mes persécuteurs, eux, peu sensibles à mes malédictions, continuaient de rire avec cruauté. Ce fut à ce moment que se produisit le petit événement que je tiens à vous raconter. Je parlais donc en faisant de grands gestes, la tête en feu, lorsqu'un homme de haute taille, distingué, vêtu avec recherche, un homme qui appartenait certainement à la meilleure société, s'approcha de moi et me dit d'une voix chaude, douce, d'une voix enfin qui n'a jamais crié ni prononcé des mots grossiers, « J'ai assisté à toute la scène. » Avant même que j'eusse eu le temps de lui répondre, il s'adressa au groupe qui riait à mes dépens. « Ce que vous faites, dit-il sur un ton de reproche qui imposait, manque de générosité. Si cet homme, par l'importance qu'il attache à ce que justice lui soit rendue, est un peu ridicule, il n'en est pas moins certain qu'il est dans son droit. » Il tient peut-être trop à ce droit, mais votre force, votre jeunesse, devraient vous rendre plus indulgent. Lorsqu'il eut terminé, il posa sa main sur mon épaule et, me poussant un peu, chercha à m'entraîner à l'écart. Instinctivement, je résistai et voulus profiter de cet appui pour dire leur fête à tous ces chenapans. Mais, avec une douce fermeté, il m'en empêcha. Lorsque nous eûmes marché quelques minutes ensemble, il m'abandonna un instant et revint avec une bouteille de lait. Comme je le remerciais avec effusion, il répondit simplement « Je vous en prie, c'est inutile. » Puis, après m'avoir demandé où je demeurais, il me reconduisit, non pas jusqu'à la porte de l'immeuble, mais jusqu'à celle de ce logement, et tout cela, vous m'entendez, sans prononcer une parole. Je le revois encore à mon côté, au moment où nous avons passé devant le concierge. Comment un homme de cette condition pouvait-il s'engager dans un escalier aussi malodorant et aussi faiblement éclairé que celui de cette maison? Je me le demandais avec étonnement. Une telle anomalie devait avoir une signification. À la vue de son profil altier, de ses belles moustaches noires, de ses oreilles fines collées à sa tête, elle m'apparut brusquement. Une présence à ce point surnaturelle ne pouvait être que l'annonce de la réparation qui m'est due. Le petit homme s'interrompit. L'activité que le souvenir de cette intervention donnait à son esprit lui faisait croire qu'il parlait encore. Aussi, bien que ses lèvres fussent closes depuis un instant, continuait-il à faire des gestes, des signes, des grimaces. Soudain, il reprit sur un ton mystérieux « Vous entendez la pluie ? Est-ce que vous entendez le bruit que font les gouttes contre les vitres ? Il n'a pas cessé de pleuvoir depuis qu'il est parti. » Comprenez-moi bien, il n'a pas cessé de pleuvoir depuis qu'il est parti. Car il ne fallait pas que le temps changeât. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, de mon côté, j'ai continuellement songé à ce mystérieux protecteur.
Il avait une gravité, une simplicité qui impose. Chaque homme, vous m'entendez, chaque homme sur terre doit connaître son heure, je veux dire celle où tout le mal qui lui a été fait est réparé. Quand cette heure arrive, les événements se précipitent. Tout se produit en même temps. Il est venu, vous êtes venu. Et demain verra luire la justice, car j'ai beaucoup souffert. Vous me voyez aujourd'hui, pauvre et vieux, subsistant grâce à la bonté de votre mère. Mais je n'ai pas toujours été ainsi. Quoique fils de petits paysans superstitieux, je ne suis pas le premier venu. J'ai eu en province ma petite notoriété. Ah, évidemment, je ne fréquentais pas des personnages comme on en rencontre à Paris. J'étais pourtant l'ami du maire, d'un des trois châtelains du pays. On me reconnaissait une grande intelligence, et chaque fois qu'un différend s'élevait entre deux de mes amis, on ne manquait de me demander de le trancher. Ce qu'il y avait de plus étrange, c'était que cette autorité ne m'était venue que grâce à ma valeur personnelle. Je n'étais pas particulièrement riche, bien que ma femme m'eût apporté une dot dont bien des gens d'aujourd'hui se contenteraient. Je n'exerçais aucune profession qui pût m'attirer des ménagements. Mais cette sorte de sympathie générale dont je jouissais ne tarda pas à me créer des jalousies. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? J'étais trop heureux, voilà la vérité. Le bonheur, n'est-ce pas, monsieur, est ce que le monde pardonne le moins. Ah, si j'avais été un alcoolique, par exemple, personne ne m'aurait voulu du mal. Mais j'étais sobre. Vous me suivez, monsieur? J'étais sobre, honnête, travailleur. Travailleur. C'est une façon de parler. Quand on est honnête, on est toujours travailleur. Ce qui m'intéressait dans la vie, c'était les histoires des autres, c'était de porter des jugements, de donner des opinions. Il faut dire que j'avais alors une facilité de parole beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. J'avais également le don de contrefaire la démarche de ceux qui m'étaient antipathiques. « Où voulez-vous en venir ?» demanda Arnold en lançant un regard sombre sur son interlocuteur. « Où je veux en venir ?» Le jeune homme hocha la tête. « Vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps. »« Je ne sais pas. Laissez-moi continuer alors. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit n'est pas bien intéressant. Ce qu'il faut, c'est que vous connaissiez la suite. La jalousie, l'envie donc, commencèrent à rôder autour de moi. » On insinuait que j'étais orgueilleux, que l'amour que j'avais pour mon épouse était une comédie, que, la nuit, j'accostais les femmes, le visage caché sous un masque de carnaval. Inutile de vous dire que je répondis à toutes ces ordures par un silence à la fois digne et méprisant. Ce fut mon tort. Que voulez-vous, j'avais un idéal. Je me représentais le monde comme un jardin où n'eussent fleuri que l'amitié, la justice, la bonté. Fleurir est le mot. Les fleurs fleurissent, n'est-ce pas? L'amitié, la justice, la bonté également. Oh, mais tout cela n'est rien. Peu à peu, le vide se fit autour de moi. On me faisait des farces, on m'envoyait des invitations pour des fêtes qui n'existaient pas, des convocations au commissariat de police pour me dire qu'il fallait que je surveille mes paroles. Ce fut à ce moment que ma femme tomba malade. Deux jours plus tard, elle mourait. C'est vous qui l'avez tuée, c'est vous qui l'avez empoisonnée. Voilà ce qu'on me répéta sans interruption dans les jours qui suivirent. Avec quoi ? Demandai-je. Avec de l'arsenic, me répondait-on. La ville entière s'était dressée contre moi. Je fus arrêté. On vous a arrêté ? Fit avec angoisse Arnold. On n'arrête pas un homme comme moi. J'avais, malgré tout, de puissantes relations. Mon beau-père n'était pas seulement un parent, mais un homme. Je ne vous ai jamais parlé de lui. Il était exquis. Bien qu'ayant vécu une grande partie de sa jeunesse dans une ferme, il avait acquis... Oui, oui, je comprends. Je continue donc. L'injustice, monsieur, je ne la supporte pas. Moi, j'ai été victime d'injustices sans nombre. J'ai souffert, j'ai été maltraité. Personne ne m'a compris. Personne ne m'a aimé. Eh bien, c'est fini, je suis décidé à ne plus me laisser faire. Tous ceux qui m'ont rendu malheureux, à mon tour, je les rendrai malheureux. Autrement, ce serait trop beau, n'est-ce pas? On tuerait les gens, on les emprisonnerait, et puis tranquillement, la cigarette aux lèvres, on irait se promener sur la grande place de la ville. Mais c'est fini, vous m'entendez? C'est fini. Il est venu, il m'a dit que mon heure avait sonné. Sa voix chante encore à mon oreille. Il avait un visage altier, comme en ont les rois. Et son regard, écoutez-moi bien, et son regard voyait à travers les choses. À bout de souffle, le petit homme s'interrompit. Son front était couvert de sueur. Depuis un moment déjà, il avait eu de la peine à articuler les mots. Son corps s'était tassé et ses mains sur la table ne remuaient plus qu'avec lenteur. Ce fut à ce moment que la mère d'Arnold reparut. « J'ai tout entendu !» dit-elle à son mari avec véhémence. Elle semblait la proie d'une vive agitation, ce qui ne manquait pas de surprendre chez une personne sortant de la solitude. « Qu'est-ce qui t'a pris, continua-t-elle, de raconter ta vie? Tu ne comprendras donc jamais le tort que tu te fais? Tu trouves peut-être que tu n'as pas assez d'ennuis comme cela? Il te faut en créer de nouveau? Mais réponds-moi, au lieu de me regarder avec des yeux ronds. » La vérité était que la pauvre femme, qui avait refusé d'écouter son fils, craignait que ce dernier ne tirât parti des confidences qu'il venait de recevoir pour faire de ces vieilles gens ses complices. Si on persistait à refuser de vouloir l'entendre, il lui était loisible de recourir à un chantage. Mais son mari, qui n'était au courant de rien, répondit « Ne pouvais-je pas tout dire à votre fils puisqu'il est des nôtres? Votre présence d'ailleurs me rappelle que, dans le feu de mon indignation, j'ai perdu de vue les véritables raisons de cette confession. » Le petit homme reprit haleine, puis se tournant vers Arnold, il continua « Vous êtes jeune, n'est-ce pas, monsieur? Vous avez des amis puissants. Oh, ne craignez rien, je ne vais pas vous demander un service d'argent. Ce que je voudrais, voyez-vous, c'est que, lorsque je comparaîtrai en justice, vous veniez déposer en ma faveur, que vous relatiez la conversation que nous venons d'avoir, qu'enfin vous usiez de toute votre influence, qui, je le sais, est très grande, pour que les mobiles de l'acte que j'ai commis apparaissent au grand jour. » Malgré son air absent, Arnold ne perdait pas un mot des paroles de son interlocuteur. Ce dernier était-il fou? Il l'ignorait. Toujours est-il qu'il tremblait de peur. Coupable lui aussi d'un crime, il appréhendait que la police, faisant subitement irruption dans ce logement pour arrêter son beau-père, ne fit coup double en le trouvant. Brusquement, le pauvre fou regarda Arnold dans les yeux, prit les mains de ce dernier et dit avec emphase, non sans s'être assuré que sa femme était bien repartie, « Je suis, vous m'entendez bien, je suis le dernier des hommes. Beaucoup sont tombés socialement encore plus bas que moi, mais personne, vous m'entendez bien, n'a une âme si laide et n'en a si profondément conscience. Je suis intéressé, hypocrite, flatteur, soupçonneux. Je le sais. Parfois, lorsque je sombre dans un accès de désespoir, je m'entends dire que j'exagère mes défauts. Mais je sais que ces paroles réconfortantes ne sont dictées en réalité que par l'égoïsme. Elles voudraient me rendre plus sociable. Que suis-je donc sur cette terre? Quelle est mon utilité? Quelquefois, l'idée de me donner la mort traverse mon esprit. Ma vie n'est-elle pas terminée? Ne vaudrait-il pas mieux en finir tout de suite? Qui sait si, une fois mort, je ne renaîtrai pas dans le corps de quelque enfant privilégié et que je n'aurai pas alors devant moi toute une longue vie heureuse? Pourquoi, dans ces conditions, continuerai-je à tenir à cette loque qu'est mon corps? Arnold n'avait pas écouté cette tirade. Le regard fixe, le corps droit, il n'avait songé qu'à lui-même. N'était-il pas, lui aussi, un être sans grandeur, sans beauté? Sa vie, comme celle du petit homme, n'était-elle pas définitivement gâchée? Ce dernier avait au moins le réconfort de penser qu'il n'était pour rien dans ses déboires. Ne pouvait-il pas s'en prendre au monde, alors que lui, Arnold, à qui pouvait-il s'en prendre, sinon à lui-même? Il se lamenta ainsi sur son sort durant quelques instants. Puis, tout à coup, il lui apparut qu'il était également une victime du monde. Sans la méchanceté des hommes, sans cette lutte qu'il avait dû soutenir pour vivre, sans cette foule qu'il avait étouffée, qui avait tué en lui tout ce qu'il y avait de généreux, eût-il fait ce qu'il avait fait? Le monde seul était responsable de ses fautes. Sans lui, qu'eût-il pu être d'autre qu'un brave et honnête garçon? Des sanglots contractaient sa gorge. Une envie irrésistible de tout avouer, de s'abandonner, de crier sa douleur, le saisit. Mais ce fou, qui n'apercevait plus que dans une brume lointaine, préoccupé de lui-même, des prétendues injustices dont il avait souffert, de sa santé délabrée, l'écouterait-il? Sa propre mère ne s'était-elle pas dérobée? Un inconnu pouvait-il avoir plus de pitié pour lui que celle qui lui avait donné la vie? Non, ce n'était pas possible. Et pourtant, la souffrance n'a-t-elle pas cette précieuse vertu de faire de deux êtres qui s'ignoraient deux amis? Vous, dit Arnold avec effusion, vous êtes malheureux, vous avez été victime toute votre vie d'injustice. Aujourd'hui, à cause du mal qu'on vous a fait, vous êtes pauvre, malade, craintif. Écoutez-moi, écoutez-moi avec votre cœur. Vous allez me comprendre. Ah, si vous saviez le bien que vous m'avez fait en me parlant! Il n'est pas de plus grand réconfort pour un homme comme moi qu'un désespoir comme le vôtre. Je voudrais vous écouter des heures, parler de la justice, de la bonté, de l'amitié. Comme nous serions près l'un de l'autre. Moi aussi, je veux parler. En vous entendant, je me suis senti moins seul, et vous, en m'entendant, vous vous sentirez moins seul également. Arnold s'arrêta, épuisé. La lampe à pétrole qui éclairait la pièce se fit plus lumineuse. Séparés par une table, les deux hommes étaient assis en face l'un de l'autre. De temps en temps, comme un couple dont l'homme n'a pas osé se mettre sur la banquette, ils se touchaient les mains. Les meubles étaient grands et sombres. Le petit homme soupira. Arnold se pencha vers lui affectueusement. Mais soudain, il se leva d'un bond, repoussa sa chaise du pied. Il courut à la porte de la chambre à coucher. « Maman ! Maman ! » cria-t-il. Personne ne répondit. Il essaya de l'ouvrir. Elle était fermée à clé. « Où suis-je ? » balbutia-t-il. « Mais vous êtes auprès de votre beau-père. »« Mon beau-père ? Mon beau-père ? J'ai donc un beau-père ?» Il se rassit, mais sans qu'une réponse à la question qu'il venait de se poser fût venue sur ses lèvres. « Il faut, monsieur, dit-il avec un calme imprévu, que vous sachiez tout. L'homme que vous avez devant vous, cet homme est victime, lui aussi, du monde. » « Je ne comprends pas, fit le beau-père avec un étonnement où on devinait le mécontentement de celui qui voit s'évanouir un de ses privilèges. » Arnold, qui ne s'aperçut pas de la froideur accueillant son exaltation, continua. « Je suis certain que vous allez me plaindre, car je ne crois pas qu'il puisse exister un sort plus tragique que le mien. Je vais tout vous raconter. Surtout, ayez pour moi la plus grande bonté. J'ai confiance en vous, bien que je ne vous connaisse pas. Faites que je n'ai pas à m'en repentir. Ma première grande faute fut de croire en moi-même. » Vous ne pouvez pas vous représenter les désordres de mon adolescence. Je m'imaginais que j'étais appelé à bouleverser l'univers. Mais ce qui est grave, c'est que j'ai tué un homme dans des circonstances épouvantables, accablantes pour moi. La seule excuse à mon acte est la bêtise. C'est peu, n'est-ce pas ?